France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Joséphine Reynard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Élise Leu. Quel rôle ont les artistes de la musique dans la construction du sentiment national et comment les États les mobilisent, par exemple, lors des conflits ? Musique et patriotisme, c'est le thème de Culture Monde cette semaine. Et aujourd'hui, 24 février, c'est en Ukraine que nous commençons cette série. L'Ukraine envahie à grande échelle il y a 3 ans, jour pour jour, et où les musiciens sont à l'unisson.
Je m'appelle Taras Topolia et je suis leader du groupe Antitilia, un groupe ukrainien. Maintenant, moi et mes amis avons choisi de nous engager dans la défense territoriale. J'ai commencé dans les hôpitaux, j'allais jouer de la guitare aux blessés dans leur chambre. Puis avec mon ami, le musicien Sacha Chemerov, nous avons créé les Cultural Forces. Aujourd'hui, notre unité militaire soutient psychologiquement les combattants en première ligne. Nous avons recruté 70 artistes, divisés en 8 unités, qui arpentent toute la ligne de front.
Aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous devons faire encore plus pour l'Ukraine. Même si je suis heureuse de voir que dans tous les festivals européens de musique, sur toutes les scènes du continent, je vois des artistes ukrainiens. L'art permet de se connecter au reste du monde, de nous faire connaître et comprendre.
C'est un son qui s'élève de l'Ukraine depuis maintenant 3 ans, sans parvenir à couvrir le bruit de la guerre. Ce bruit que Jean Echenoz appelle « perpétuel tonnerre polyphonique », le canon qui tonne en basse continue, les obus fusant et percutant de tout calibre, les balles qui sifflent, claquent, soupirent ou miaulent selon leur trajectoire. En Ukraine, la musique ne s'est pas contentée de sonner la mobilisation, laissant les rues jonchées de bouquets flétris, de cocardes froissées et de restes de banderoles comme un lendemain de fief patriotique, décrit dans le roman 14. Non, la musique accompagne la guerre, elle célèbre les combattants, elle pleure les morts et fustige l'ennemi. Que ce soit les chanteurs d'opéra, les pop stars des plateaux télé, les rockers alternatifs, tous s'y sont mis pour maintenir le moral d'une société fatiguée, voire pour construire une scène musicale dérussifiée, décolonisée selon les mots de l'État, qui a fait de la musique un champ de bataille culturel, et ce depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. L'Ukraine se bat donc depuis 3 ans aussi pour préserver un espace, celui de la vie et de la parole, y compris la musique, et vous contribuez à ce tonnerre polyphonique. Oleg Skripka, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Kiev en Ukraine. Vous venez de recevoir une alerte à la bombe d'ailleurs. C'est votre lot quotidien qui n'empêche pas d'être toujours en alerte. Mais en tout cas, vous êtes pour l'instant avec nous et on souhaite que cette liaison soit maintenue jusqu'au bout de l'émission. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes une star en Ukraine depuis les années 80. Vous nous raconterez tout à l'heure pourquoi vous aviez déjà choisi à ce moment-là de chanter en ukrainien. Alors il se trouve, Oleg Skripka, que vous parlez français pour avoir vécu en France pendant 10 ans. Néanmoins, il est toujours difficile de s'exprimer dans une langue qu'on pratique peu. Alors, on va y aller doucement. Oleg Skripka, quels sont les derniers concerts que vous avez faits en Ukraine en temps de guerre?
Maintenant, je suis dans la ville Vinnytsia. C'est le centre d'Ukraine. Et justement, le dernier concert, j'ai joué il y a une heure. Il y a une heure à l'hôpital pour des militaires blessés.
C'était il y a une heure. Vous avez joué où exactement, près des militaires? Vous jouez aussi le matin, alors on vous demande un peu tout le temps et partout.
C'est l'hôpital pour la réhabilitation des guerriers blessés qui ont perdu les pieds, les jambes, les bras et tout ça. Et donc, ils donnent les prothèses, les bras en métal, les pieds en métal. Et justement, ils passent la réhabilitation psychologique. Et donc, c'est très important. C'est pas très grand, l'hôpital. C'était 40 personnes. Donc, j'ai joué quelques morceaux, pas trop, comme on dit, guerrier, parce qu'il faut vraiment aller doucement avec les gens comme ça. Je consomme, mais ça passait très, très bien. Et moi, je pense que dans ce jour-là, c'est très symbolique que j'ai eu la possibilité jouer pour les gars, aider de la façon comme ça.
Ce jour-là, 3 ans jour pour jour après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, est-ce que c'est posé pour vous, Oleg Skripka, la question de vous engager, d'aller vous battre sur le front? Je crois que vous avez 60 ans, c'est ça?
Oui, j'ai 60 ans, c'est l'année dernière. L'année dernière, et aller se battre au front, c'est la question qu'elle pose chaque homme en Ukraine. Mais je pense que c'est la meilleure chose que je peux faire, c'est jouer la musique, mais jouer la musique de la façon qu'elle moi je fais.
Notamment parce que quand la guerre a éclaté, vous avez, vous, 4 enfants, ils avaient 9 et 16 ans quand a éclaté la guerre. Le journaliste Patrick Saint-Paul du Figaro vous avait rencontré en mars 2022 et il racontait comment vous aidiez comme vous pouviez en distribuant de la nourriture aux soldats de la défense territoriale, en érigeant des barricades pour barrer la route aux chars russes, en montant aussi une plateforme de soutien psychologique. Est-ce que vous allez aussi chanter sur le front? Là, vous nous parliez du concert que vous venez de donner dans un hôpital, mais sur le front, dans les tranchées, auprès des soldats, ça vous arrive aussi?
Oui, bien sûr, on peut faire ça dans deux façons. Soit on fait avec la coopération vraiment le ministère de défense. Donc c'est plus officiel. Et moi je préfère faire comme ça parce que c'est la question de sécurité. Il faut très bien organiser ce concert, et en plus ça doit être un secret, parce que s'il a l'information, parce que il a plusieurs militaires, les artistes ensemble dans tel endroit, c'est très dangereux.
C'est une cible.
Donc il faut faire. Il faut faire bien.
Très attention. Et le ministère de la Défense, le ministère de la Défense prépare tout à l'avance, organise tout ça avec les militaires et vous. Ça c'est la première condition. Et vous disiez qu'il y a un autre cas de figure, un deuxième cas de figure.
Et autrement, on peut avoir les amis entre les guerriers, et donc les amis ils passent l'information au commandant de la partie militaire, et on peut organiser entre nous comme ça, un peu privé, mais quand même de toute façon il faut faire bonne attention à la sécurité. C'est important. Très important. Et parfois, il y a des endroits bien cachés sous sol. Sous sol, c'est vraiment les salles de concert à côté de front. Ça existe. Ça existe, mais assez bien équipé avec le son, avec les sonneries, avec la batterie, avec tout ça. Et comme ça, on peut jouer. Le concert, par exemple, pour 200-300 personnes, assez
oui, bon, facilement remplir
assez
la salle.
Bien, assez à l'aise.
D'accord. C'est le cas à Kharkiv, par exemple, la grande ville de l'Est de l'Ukraine, qui est aujourd'hui transformée en forteresse, la salle de concert pour résister aux assauts russes, et où vous allez donner des concerts, ainsi que dans les hôpitaux militaires, vous nous le disiez tout à l'heure, ou cet hôpital pour enfants dans le centre de Kiev, où vous avez joué au tout début de la guerre une reprise de la chanson d'Adamo, Tombe la neige, avec votre groupe Vopliv Vida Plia Sova.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, mon cœur s'habille de noir. Triste certitude, la voix, l'absence, cet oignon au silence, blanche solitude. Tu ne viendras pas ce soir. Mon cri, mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible au manège. Tu ne viendras pas ce soir. Mon cœur, mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible au manège.
Tombe la neige, votre reprise Oleg Skripka de la chanson d'Adamo, même si vous avez préféré enchaîner cette chanson avec son autre tube, Printemps, quand il s'agit de chanter pour le personnel médical d'un hôpital pour enfants dans le centre de Kiev, alors que la neige tombait dehors, mais qu'il fallait aider à traverser l'hiver. Bonjour Louisa Martin-Chevalier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en musicologie à l'université Sorbonne Université. La scène musicale ukrainienne, comme Oleg Skripka et son groupe, continue donc à se produire depuis 3 ans. À quel rythme les concerts continuent, des disques continuent à sortir?
Oui, tout à fait. Les compositeurs, les compositrices ukrainiens le décrivent très bien dans leur témoignage juste après 2022. Il y a eu cette période de choc, vraiment, qui a duré quelques jours, quelques semaines. Ils disent très bien qu'ils ne pouvaient pas créer les premiers temps après l'invasion. Mais assez rapidement, en fait, ils se sont exprimés en disant que de toute façon, ils étaient des Ukrainiens, des artistes, et que leur forme de résistance passerait par la création. Il y a une sorte d'émancipation par la création qui est très claire dans la sphère artistique ukrainienne.
Et est-ce que beaucoup de musiciens ou de chanteurs ukrainiens sont partis? Est-ce que cette question de partir ou de rester et chanter, ou de rester et se battre, est-ce que ces questions ont fracturé la scène musicale, provoqué des procès en légitimité, par exemple, de la part qui sont restés?
Alors c'est une question évidemment très très particulière. Je crois qu'il faut voir les choses de manière très nuancée, c'est-à-dire qu'il y a en effet cette possibilité déjà entre les femmes et les hommes. Les femmes pouvaient partir et les hommes non, donc il y avait quand même ce choix à faire. Mais pour avoir rencontré de nombreuses compositrices qui par exemple étaient parties, en fait c'est jamais des trajectoires linéaires, c'est-à-dire que elles sont parties, mais elles sont parties parfois en Pologne avec leur famille, mais vraiment dans des zones frontalières, puis elles reviennent à Kiev. Enfin, de toute façon elles sont toujours avec l'Ukraine. On parlait d'alerte tout à l'heure avec Oleg Skripka. En fait elles ont toujours leur téléphone à côté d'elles, et où ils ont toujours, et donc il y a cette manière d'être toujours dans le pays.
Et certains ont été tués aussi. Dans un tout récent reportage de Rémi Ourdan en Ukraine pour Le Monde, il donne les derniers chiffres des autorités ukrainiennes. 149 figures de la scène culturelle tuées depuis le début de la guerre, alors sans préciser de quels artistes il s'agit. 476 sites culturels détruits ou endommagés, cette fois selon les Nations Unies, sans qu'on sache là encore si des salles de concert également font partie de ces sites détruits. Malgré tout, on a l'impression d'une très grande fertilité musicale en Ukraine depuis le début de la guerre. Et dans Culture Monde, on a très souvent fait entendre des chansons écrites après le 24 février 2022. Comme on fait une série sur musique et patriotisme, c'est le moment d'écouter un peu de musique. Cette chanteuse ukrainienne, par exemple, Alina Pash, et sa chanson Goyra.
Ласкаво прошу до Закарпаття. Західний вітер мені дує в спину, я на собі ношу ці сувеніри. Тепло одягайся, бо у горах зимно, паленьку беру, я мали намір. Гості мої любі, я гуляю нині, будні як вареники, такі ліниві. Розкодую всіх, які є несміливі, до рання і так 3 дня. Гойра, аби не було горя, то поки очі горять. Не було горя, допоки очі горять.
пари низько так, що їх торка рука. Забили біля ватри, ми танка аркан. Та що не буде так, мені сказав шаман. Тихий, поки молодий, бо час біжить, як молоко. Тих піймав журбу, то забиває, як молотком. Сукроси повітря, їх не забереш ти із собою. Матінка природа, тиво має свій закон. Закарпаття то любов.
Гойра! Goïra, c'est une chanson qui date de 2023 de la chanteuse ukrainienne Alina Pash, née dans l'oblast de Transcarpathie. Elle a toujours dénoncé les politiques d'occupation de Vladimir Poutine. Elle s'attache dans ses textes à, je cite, expliquer toutes les différentes parties de l'histoire, pourquoi elle est importante pour les Ukrainiens, mais aussi pour l'humanité en général. Alors Louisa Martin-Chevalier, souvent la guerre est en sous-texte, mais pas nécessairement de façon explicite dans les chansons ukrainiennes qui sont produites et diffusée depuis le début de la guerre.
Oui, alors c'est très intéressant la chanson que vous passez, parce que Alina Pash donc a vraiment à cœur justement de montrer les différents territoires et les différentes spécificités locales de l'Ukraine. Elle avait été choisie d'ailleurs hein, pour représenter l'Eurovision, l'Ukraine en 2022, et finalement il y a eu toute une polémique autour de sa présence, puisque il y a un scandale qui était né. Parce qu'elle était passée par la Crimée lors d'un voyage quelques années avant, et du coup elle a été, on a annulé sa participation. Et c'est un autre groupe, le Kalusha Orchestra, qui avait concouru pour l'Eurovision avec la chanson Stefania aussi, qui mettait en avant des chansons traditionnelles de la même région. Et Kalusha Orchestra avait gagné l'Eurovision en 2022. Ça avait été un moment très particulier. Évidemment, étant donné le contexte géopolitique.
Et sinon, donc de façon générale, ne sont pas évoqués dans ces textes le fracas des bombes, le sifflement des balles, la guerre comme sujet de chanson. Ça reste rare, ou malgré tout, ça fait partie, enfin une certaine partie des musiciens ou des artistes ukrainiens s'en servent aujourd'hui pour des performances, pour des musiques.
Oui, le thème de la guerre est très présent dans un grand nombre de compositions ukrainiennes, en effet. Ne serait-ce que dans les titres, hein, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de références à la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la manière d'exprimer la guerre et d'exprimer l'expérience traumatisante de la guerre, avec beaucoup de chansons qui s'intéressent à l'expérience du deuil, à l'expérience, mais aussi transformée en volonté de victoire, en triomphe du bien. Vous avez aussi toutes ces un grand nombre de chansons et d'œuvres qui témoignent de ces thématiques. Mais si on reste sur comment représenter la guerre en musique, on peut penser à plusieurs œuvres hein, qui ont vraiment cette qui incorporent en fait les éléments de la guerre, mais sans faire la promotion du militarisme, sans appeler à la violence, sans, il n'y a pas de destruction de l'ennemi, mais au contraire c'est comment résister dans un contexte de guerre. Et ça, c'est vraiment intéressant dans la résistance ukrainienne pour les artistes, c'est vraiment de dire on veut survivre, on veut exister en tant qu'Ukrainien, donc on veut montrer vraiment l'identité ukrainienne et exprimer cette idée-là à travers leurs œuvres.
Par exemple, celle-ci, Vox Humana de Grigoriev. Louisa Martin-Chevalier, de quoi s'agit-il, cette œuvre qui date de 2023?
Alors c'est une œuvre qui est composée par Roman Grigoriev, en effet, et avec un missile. C'est avec une carcasse de missile. Il a utilisé ce fragment de missile. C'est un contrebassiste, un Grigoriev, et il a expérimenté. Il a pris un archer, il a joué sur le missile, donc il est absolument pas transformé le missile. Hein, c'est vraiment l'archer qui vient frotter contre trois nervures et qui donne ces sons plus ou moins aigus. Et il explique que pour lui c'était un son de mort. Un son de fusée qui hurle, et donc il a composé une pièce avec ce missile.
Et vous, Oleg Skripka, est-ce que vous avez écrit ou est-ce que vous avez chanté la guerre, ou est-ce que dans toutes les représentations que vous faites, justement, vous évitez cette thématique-là?
Justement, avant la guerre, moi je préfère chanter sur l'amour, sur les choses assez gaies. C'est vraiment, c'est pas mon truc. chanter sur la tristesse et les choses terribles. Mm. Mais quand même, au début de la guerre, j'écris une chanson, peut-être deux chansons. Mais justement, je pose mon regard sur les chansons du début du XXe siècle. Parce que il y a 100 ans, l'Ukraine, on a passé déjà une guerre terrible qu'elle, malheureusement, on a perdue. Mais il y a quelques chansons qui restent dans notre cœur et ça sonne encore, les chansons comme ça. Donc, j'ai interprété parce que je joue beaucoup pour les militaires, à l'étranger aussi, pour les Ukrainiens. Et donc, il faut jouer quand même les chansons guerrières des guerriers. Donc il y a deux chansons qu'il jouait, j'ai joué, c'est Червона Калина, c'est cette chanson justement interprétée par Pink Floyd et plusieurs artistes, et tous les Ukrainiens connaissent maintenant cette chanson, mais cette chanson elle est vieille, très vieille. Et donc justement, hier, j'ai sorti un clip, et le scénario est écrit par artificiel. Comment c'est en français ?
L'intelligence artificielle. D'accord. Vous avez demandé à ChatGPT.
Intelligence artificielle. Voilà. Donc, il écrit le scénario de comment ça passe l'histoire de l'Ukraine pour le futur. Et avec ce scénario, on a fait le clip. On a fait le clip avec justement les images artificielles. Voilà, donc hier, on a sorti ce clip avec les chansons Червона Калина.
Et l'intelligence artificielle est plutôt optimiste pour l'Ukraine alors, ou pas?
Absolument. Absolument, il est très très optimiste, mais ce qu'on a eu le problème, c'est avec le passé d'Ukraine, c'est avec les images. Si on demande l'intelligence artificielle montrer le Cosaque, par exemple, le guerrier du 17e siècle d'Ukraine. Tout de suite, ils font l'image des Russes.
Ah d'accord. Oui, donc l'intelligence.
Ça veut dire ils savent pas. Ils savent pas qu'est-ce que c'est l'Ukraine de passé comme toute l'Europe, comme on est venu la première fois en France, il y a 35 ans. Donc les Français, ils connaissaient pas du tout l'Ukraine. Les Européens connaissaient pas du tout l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est une autre chose. Et donc, justement, on a travaillé avec l'intelligence artificielle pour expliquer qu'est-ce que c'est l'Ukraine dans le passé. Et justement, avec ça, elle a montré l'histoire du futur. Voilà.
Vous, Oleg Skripka, vous avez grandi dans la région de Mourmansk, en Russie. Depuis quand est-ce que vous vous définissez comme un chanteur ukrainien avant tout?
Ah, ça c'est intéressant parce que les Ukrainiens étaient il y avait beaucoup des Ukrainiens partout en Russie et au nord aussi, et justement les copains de mon père ils étaient plus tous les Ukrainiens, bien sûr ils parlaient russe à l'époque, mais quand on était réunis autour de table. Après le repas, on a eu la tradition de chanter toujours. Heureusement, on a perdu cette tradition. Et dans mon enfance, moi je me souviens, toujours c'est la chanson, et c'était les chansons ukrainiennes. Et pour moi, c'est les choses émotionnelles, c'était toujours lié avec la chanson ukrainienne. En plus, je suis venu dans mon enfance à la région de Poltava. C'est mes grands-parents. Et bien sûr, c'était déjà, ils parlaient ukrainien, ils chantaient ukrainien. Et ça, c'était très émotionnel, mon mémoire d'enfance. Mmh. Et Et quand j'ai terminé mes études à l'école au nord, j'ai décidé d'aller à Kiev, faire des études en Ukraine ici, et pour revenir en Ukraine. Et après, mes parents sont revenus en Ukraine aussi.
Et c'est donc en 1986 que vous commencez à chanter vraiment en ukrainien. À l'époque, déjà peu de monde parlait ukrainien, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours. Alors chanter en ukrainien, ça se faisait très peu. Votre chanson « Tantsi », ça veut dire « danse » au pluriel en français, est parue en 1989 dans l'album du même nom. C'était l'une des premières chansons à être interprétée en ukrainien et ça a été un très grand succès en Ukraine.
Ми споминаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждімо, коли прийде добра неділя. Танця запрошує нас. У клубі були любі танці. Та-та-та танці. Цели добрі танці, ла-ла-ла танці.
Oleg Skripka, c'est une de vos premières chansons avec votre groupe Vopi Vidopi Yasova. Vous avez aussi repris l'hymne cosaque, donc ces chants traditionnels de l'oblast de Dnipropetrovsk, dont la ville principale est la ville de Dnipro. C'était également un grand succès, je ne sais pas si c'est avec la bandoura, l'instrument traditionnel à 68 cordes que les cosaques, paraît-il, apportaient avec eux sur le champ de bataille. En tout cas, certaines de vos chansons vous ont été reprochées quand il s'agissait d'hymne cosaque ou de chansons que d'aucuns pouvaient considérer comme nationaliste. Vous dites que vous êtes patriote. Louisa Martin Chevalier, depuis quand les chanteurs ukrainiens chantent en ukrainien? Depuis quand Oleg Skripka a fait des émules en Ukraine?
Oui, alors c'est une vraie question. C'est assez récent, hein, quand même, notamment dans la scène contemporaine. En tout cas, il y a un consensus sur le rejet de la langue russe dès le début de l'invasion. Et déjà dès 2014, il y a quand même une conscience politique assez forte chez certains musiciens. Mais c'est vraiment en 2022 qu'on assiste à une promotion de la langue ukrainienne. Et même au-delà, c'est-à-dire qu'il y a des références, vous l'avez dit, à la bandoura, notamment à des instruments traditionnels, à tout un répertoire aussi, à des chansons folkloriques très populaires qui sont citées dans les pièces contemporaines, mais également des références à des figures artistiques, parce que comme l'a très bien dit Oleg, en fait il y a aussi tout un répertoire, un patrimoine du début du XXe siècle. On parle d'une génération sacrifiée parce que au moment de, elle a été sacrifiée par l'Union soviétique, par la censure de l'Union soviétique, et puis ensuite quand ce répertoire a été redécouvert dans les années 60-70, en fait on l'a présenté comme étant soviétique, étant russe, et donc là encore il n'y a pas cette identité ukrainienne, enfin l'identité ukrainienne a encore été sacrifiée. Donc il y a une volonté pour les compositeurs et compositrices ukrainiens aujourd'hui de travailler avec des textes, par exemple de grandes poétesses, je pense à Lisa Ukrainka, ou alors une femme de lettres contemporaine, Oksana Zabushko, où vraiment on a des compositeurs et compositrices qui mettent en musique les vers des grandes figures ukrainiennes du 19e et 20e siècle.
Oleg Skripka, est-ce que vous considérez comme un artiste patriote? Est-ce que chanter en ukrainien est un acte de patriotisme ou c'est juste que la langue ukrainienne se marie bien avec vos musiques? En tout cas au départ et puis aujourd'hui.
Justement, j'ai voulu ajouter sur le thème de Louisa. Moi, je représente la génération des artistes ukrainiens, des artistes ukrainiens qui n'étaient pas tués par les moscovites. Et c'est aujourd'hui on a vraiment la culture moderne contemporaine ukrainienne parce que justement ma génération n'était pas tuée. Avant nous, on a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup des artistes. C'est pourquoi on a eu l'invasion de la culture russe, la chanson russe et tout ça. Et pas beaucoup des artistes, pas beaucoup des gens en Ukraine étaient conscients de ça, parce que l'information n'était pas distribuée entre les gens. Et justement, mais par le cœur, par hasard, je ne sais pas, avec mon groupe, on a commencé à essayer de travailler avec la langue ukrainienne et vraiment, on a commencé à chanter le rock and roll ukrainien. Et heureusement, c'est venu Perestroïka et après l'Union soviétique était terminée. Et on a eu plusieurs années que ça a développé naturellement la musique ukrainienne. Mais après, dans les années 90, justement quand j'étais en France, cette époque-là, au niveau la propagande russe au niveau de culture est arrivée en Ukraine au niveau, et donc ils ont recommencé leur travail.
D'ailleurs, juste un petit mot sur le nom de votre groupe qui s'appelle Vopli Vidopliasova, en référence à un personnage Vidopliasov d'un roman de Dostoïevski qui s'appelle ce roman Le Bourg de Tchikovo et sa population. vous avez réfléchi à changer le nom du groupe parce que Dostoïevski, depuis l'invasion russe à grande échelle, est banni des écoles et des bibliothèques. Alors il n'est certes pas aussi honni que Pouchkine, on rappelle souvent ses origines ukrainiennes, mais est-ce que ça a été une question pour vous de changer de nom de groupe?
C'est une belle question. Et maintenant la guerre continue, donc ces questions, on va le régler après la guerre.
D'accord.
Moi, je pense.
Vous êtes connu avec ce nom-là.
Mais autrement, c'est mon avis. Mon avis. Il y a grand nombre des écrivains, des artistes russes, ils ont des origines ukrainiennes. Et Dostoïevski, c'est vraiment la famille des Ukrainiens. Tchaïkovski, c'est la famille des Ukrainiens. Bulgakov, c'est la famille des Ukrainiens. Tchekhov, c'est les Ukrainiens. Oui. Google, etc.
Et vous avez aussi, à l'inverse...
Donc pour moi, ça pose pas le problème. Oui. Mais bien sûr, avec mon opinion, beaucoup des Ukrainiens, ils ne sont pas d'accord.
Alors, voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a un débat là-dessus et qui est vivant. D'ailleurs, encore une fois, le reportage de Rémi Ourdan pour Le Monde, le journal Le Monde, cette semaine, qui a paru, donc, qui était à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, laboratoire, dit-il, des tensions politiques que connaît le pays sur les questions culturelles, et où, même si personne ne s'affiche pro-russe, on débat, dit-il, sur la nécessité ou pas de supprimer tout un héritage lié aux empires russes, tsaristes, puis bolcheviques et soviétiques. Le chef d'orchestre philharmonique d'Odessa, par exemple, ne comprend pas pourquoi on bannit Tchaïkovski, le plus ukrainien de tous les compositeurs russes, dit-il. On devrait au contraire se l'approprier. Il a utilisé beaucoup de mélodies ukrainiennes dans la musique. Vous vouliez, Louisa Martin Chevalier, réagir sur la question du patriotisme des artistes ukrainiens?
Oui, d'ailleurs, la question de la dénomination est encore très présente, hein, puisque je rappelle que le conservatoire de Kiev s'appelle Tchaïkovski, comme son grand frère, le conservatoire de Moscou, et qu'il y a eu beaucoup de débats et des enseignants qui ont démissionné pour protester contre le fait que l'administration veut garder ce nom-là. C'est exactement ce que disait Oleg. Et certains collègues expliquent que c'est peut-être un débat qui aura lieu après la fin de la guerre. Mais juste, en effet, dans les discours officiels, c'est important quand même de rappeler, dans les politiques culturelles, dans les débats et dans les déclarations qui ont été écrites après 2022 sur le rôle de la culture en temps de guerre, la question de l'Ukraine comme ancienne colonie, considérée comme une ancienne colonie de la Russie, et donc cette nécessité de dérussifier le pays et dans la sphère culturelle, elle est clairement énoncée. Enfin, c'est très clair, le mot de décolonisation, de dérussification, ces termes-là sont employés. C'était absolument pas le cas avant 2022. Donc c'est important de comprendre que dans les discours et dans les déclarations, il y a plusieurs textes officiels qui existent, qui ont été signés par une majorité d'acteurs de la vie culturelle ukrainienne et des industries culturelles ukrainiennes.
Oui. Et qui doivent d'ailleurs bientôt faire paraître un guide de la décolonisation de la culture. On verra ce qui est à l'intérieur. En mai 2022, le Parlement ukrainien, la Rada, avait voté une loi qui interdisait la diffusion de musique russe créée après 1991. Quels sont les tubes que les radios ne diffusent plus, par exemple, à votre connaissance, Louisa Martin Chevalier, en tout cas, peut-être sans entrer dans ces détails-là, est-ce que on peut imaginer que ça a changé quelque chose, même de façon imperceptible, dans le son qui accompagne les Ukrainiens depuis maintenant 3 ans? Il y a toujours des musiques dans les foyers, donc c'est important la façon dont la musique accompagne le quotidien.
Oui, il y a une sorte de reconfiguration. Alors, la question de comment représenter la guerre, justement, avec cette dimension violente ou pas, elle est encore très présente. Comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de citations de chansons folkloriques. Et il y a aussi des, je pense au groupe d'Akhabracha, qui est passé il n'y a pas très longtemps à Paris. Et j'étais à leur concert et c'était assez intéressant parce qu'ils disaient qu'ils proposaient un nouveau genre musical qui était l'ethno-techno, à partir donc de chants traditionnels qui mettaient au goût du groupe en techno, donc c'était l'ethno-techno. Donc vous avez aussi toute une réinterprétation du répertoire traditionnel qui est très très présent dans les œuvres actuellement.
Une réinterprétation du répertoire traditionnel, d'autres œuvres qui se constituent, qui se fabriquent, qui s'inventent et se créent en temps de guerre et qui peuvent faire débat. C'est le cas de l'opéra Lullaby for Mariupol, dirigé par Romain Grigorif et Ilia Razoumeiko. Lullaby for Mariupol, pourquoi cet opéra a-t-il fait débat, Louisa Martin Chevalier, qui raconte le massacre survenu dans la ville, les 20 000 personnes au moins mortes dans l'assaut de l'armée russe dès le mois d'avril 2022.
Oui, c'est une pièce qui a été composée pour commémorer cette tragédie de Mariupol. C'est un mélange. Là, on entend, avec cet extrait, on entend l'expérience traumatisante de la guerre avec des glissandi, avec la voix qui est particulièrement chargée émotionnellement. Mais ce qu'il faut imaginer aussi comme scène, c'est donc ce petit orchestre, ce petit ensemble de chambres avec des bandouras au centre de la scène. Et des vidéos qui sont projetées, en fait, ce sont des images de la ville détruite qui sont filmées par des habitants et qui sont projetées comme un documentaire derrière les musiciens et les musiciennes. Et c'est poignant. Enfin, c'est une œuvre qui a beaucoup été jouée plutôt à l'étranger. Et au final, Grigorif, le compositeur, explique que cette œuvre a une mission culturelle et diplomatique qui est peut-être un peu supérieure à sa mission artistique. Et au mieux, elle prouve que les Ukrainiens existent. Exister aux yeux de l'étranger, c'est l'une des missions aussi de cette pièce. De faire exister l'identité ukrainienne à l'étranger avec cette dimension traumatique de l'expérience sonore de Lullaby.
Et d'ailleurs, les musiciens ukrainiens aujourd'hui, quand ils se produisent à l'étranger, ils terminent systématiquement leurs concerts par Slava Ukraina, lancent des appels aux dons aussi pendant les concerts. Et vous parliez tout à l'heure de ce groupe qui chante des chansons folkloriques sur techno, là, en technotrad, un style qu'on appelle comme ça, d'Arabara. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait à Paris il n'y a pas très longtemps lors d'un concert. Alors, un de vos collègues, Andriy Livnik, le chanteur du groupe Boombox, je m'adresse à vous, Oleg Skripka, cette fois pour conclure. Ce chanteur qui a rejoint les forces de police de Kiev, lui-même relève l'absurdité d'ailleurs de la situation. Il se trouve qu'il avait fait une reprise de I Shot the Sheriff de Bob Marley. Donc Andriy Livnik dit aujourd'hui avoir tué des soldats russes, des gamins de 18 ans qui ont peut-être grandi en écoutant ma musique, disait-il aujourd'hui à un journaliste qu'il avait rencontré. Certains le reconnaissaient. Est-ce que vous avez, Oleg Skripka, ou est-ce que vous aviez un public russe aussi?
Moi, justement, quand on est revenu en Ukraine en 97, mais finalement, on est d'origine le groupe soviétique, et on a eu beaucoup de fans, en Russie. Et en plus, le marché, si on peut dire marché musical, c'était plutôt à Moscou, à Saint-Pétersbourg, un petit peu. Donc, on a eu beaucoup de concerts en Russie, les tournées en Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Et justement, le dernier, mon concert avant la guerre de 2014, j'ai joué à Saint-Pétersbourg, justement. Mais c'était déjà le début de la guerre, mais le concert était organisé bien en avance. Donc j'ai joué dans un grand club à Saint-Pétersbourg. C'était bourré du monde. Et moi, justement, comme l'artiste, j'ai eu déjà la sensation que je chante, je visite la dernière fois la Russie.
C'était la dernière fois que vous êtes allé là-bas. Ouais, c'était un sentiment forcément important pour vous qui avez grandi en Russie.
Et donc, oui. Justement, notre public était à manger arrêté en Russie parce qu'ils sont nombreux et justement on a l'histoire soviétique. Et une fois, j'ai joué dans un concert, un festival à Riga. Et pour ce festival, trois bus sont arrivés. C'était les fans de mon groupe. D'accord. Vraiment, ils sont venus pour mon groupe parce que c'était 2017, peut-être 2018.
Alors, Louisa Martin-Chevalier, pour conclure cette première partie, je cite le poète ukrainien Seri Jadan qui chante ses textes au sein du groupe Jadan et les chiens, Jadan Nisobaki, qui explique qu'il, lui, a coupé les liens avec les artistes russes parce que, selon lui, la nostalgie de l'Empire russe et soviétique a pris en Russie une place majeure et passé de la bravade, un brin exotique, à la pierre d'achoppement, l'élément majeur de cette culture. Vous connaissez, vous, des artistes ukrainiens qui acceptent encore de travailler avec des artistes russes?
Non, non. En fait, c'était très particulier au début de l'invasion, enfin la deuxième partie 2022, parce que systématiquement les chercheurs européens leur posaient cette question-là. Est-ce que vous voulez pas créer un duo avec un artiste russe? Ce serait quand même très beau symboliquement et métaphoriquement de montrer, etc. Et pas du tout. En fait, là, je pense qu'il y a une urgence. C'est d'exister. C'est la priorité, la survie d'un État. Donc non. C'est pas du tout en tout cas, sans faire de généralité excessive, mais c'est pas du tout l'enjeu de leur actualité.
Merci beaucoup Louisa Martin-Chevalier, maîtresse de conférences en musicologie à l'Université Sorbonne Université. Et merci beaucoup Oleg Skripka d'avoir été avec nous. Votre groupe Vopli Vidoplia Sova continue à jouer en Ukraine. Nous mettrons des références musicales sur notre site juste après le disque qu'on va vous faire écouter. Encore un groupe ukrainien qu'on avait envie de vous faire entendre, Okean Elzy. Nous parlerons de la scène musicale en Géorgie.
Десь на набережні в Мукачеві, там, де душу виймає сакура, влаштував би собі побачення із собою з 80-х я, і спитав би у себе хлопчика, що побачив мене дорослого, чи хотів би він стати голосом покоління тих, кому балет.
Okean Elzy, le groupe ukrainien et sa chanson Moukatchevo, du nom d'une ville en Ukraine, en Transcarpathie. En Ukraine, les musiciens à l'unisson depuis 3 ans maintenant. C'est le premier épisode de notre série consacrée cette semaine à la musique comme patriotisme. Dans une autre ancienne république soviétique, la musique est très politique et les clubs électro, des endroits où l'on proteste contre le pouvoir en place. Il s'agit de la Géorgie.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Au-delà des manifestations qui se tiennent chaque jour devant le Parlement depuis les élections législatives contestées du mois d'octobre, les opposants au parti Rêve Géorgien, qui domine la vie politique du pays depuis 2012, ont fait des clubs électro leur base arrière. Plus que de simples lieux de fête et de création musicale, ils sont devenus des espaces d'échange politique et de circulation militante. C'est le cas du club Bassiani à Tbilissi.
Le Bastiani est l'endroit où nous avons commencé à évoquer pour la première fois les droits humains, les droits des personnes LGBTQ, l'égalité et tout ce qui a une importance politique dans ce pays. C'est le seul endroit où on peut s'exprimer librement et être vraiment soi-même. C'est pour ça que le Bastiani me tient autant à cœur.
Bonjour Arnaud Contreras.
Bonjour Julie.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes producteur pour France Culture, photographe. Vous avez écrit Tbilissi Tcha-Tcha, paru en 2019 aux éditions de Juillet. D'abord, est-ce que le Bastiani, ce club électro, qui est l'une des scènes de votre livre écrit comme un long poème et dont on vient d'entendre les échos diffusés dans un documentaire d'Arte, est-ce qu'il est toujours ouvert à l'heure où on se parle et alors que des manifestations contestent presque tous les jours, depuis bientôt 4 mois, les résultats des législatives?
Alors, Bastiani est ouvert, comme un certain nombre de clubs à Tbilissi et en Géorgie, dans les autres grandes villes de Géorgie, ils ont fermé, en fait, pour participer à la protestation contre le rêve géorgien. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont lancé de nouvelles initiatives, notamment avec des clubs ukrainiens. Ils ont lancé notamment une initiative qui s'appelle Speak Up, hein, où l'idée, c'est de s'affirmer un petit peu plus comme des lieux de parole, des lieux politiques, que comme des lieux festifs. Et ça, c'est vraiment la nouveauté depuis, on va dire, depuis 2 mois. Aujourd'hui, c'est le 88e ou 89e, c'est la 88e nuit de protestation à Tbilissi. Donc, il commence un peu plus à s'organiser d'un point de vue politique, je dirais. Ouais.
Le Bastiani, ce club que vous racontez longuement dans votre livre, en quoi est-il un club tout à la fois de musique et de débat politique? Peut-être juste pour se le représenter, il est construit dans une ancienne piscine, vaste piscine, logée sous le stade de football, écrivez-vous. Comment se fait-il? Comment peut-on, dans un même lieu, trouver à la fois des mélomanes, en tout cas des amateurs de musique techno, et des gens qui viennent vraiment parler politique?
Je pense que c'est l'opposition au pouvoir qui les a politisés au fur et à mesure. À savoir, il y a eu une descente de police en 2018 pour une suspecte. Enfin, le Bastiani était suspecté d'être un lieu de deal de stupéfiants. Le club a dû fermer pendant quelques jours. Il y a eu une manifestation assez intense qui s'est organisée dans les rues de Tbilissi. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la convergence avec des associations, avec des groupes des personnes qui voulaient lutter contre la fermeture d'une mine en Géorgie, des différents groupes sociaux, et qu'on est sorti juste de la position un petit peu festive ou de défense de certains droits des minorités. C'est à ce moment-là que Bastiani et le public de Bastiani et d'autres clubs, en fait, s'est vraiment politisé. C'était vraiment un moment de rupture, d'organisation, je dirais, de ce milieu festif, et qui, au fil des ans, est un peu devenu fer de lance d'un certain nombre de luttes en Géorgie. Ouais.
Là, c'était en 2018, le déclenchement de ce qu'on appellera la révolution rave. Vous écrivez, Arnaud Contreras, à 6h du matin, un DJ en fin de set, pupille dilatée, peut te réciter 20 lignes de Pushkin. La scène se reproduit n'importe où, on te sert du poète russe, géorgien, iranien, turc, à chaque guet, à chaque tronc de noisetier, et tu te sens bien inculte, et tu les sens bien poètes. Ce succès des musiques électro d'import berlinois, surtout dans un pays, la Géorgie, qui chante dans la rue, qui chante aux fenêtres, qui chante dans les taxis. Ça, c'est quelque chose qui vous a surpris quand vous êtes allé à Tbilissi?
Oui, ça m'a énormément marqué. Alors, à savoir qu'il y a un retour, chanter des polyphonies géorgiennes, c'est devenu un peu hype en ce moment à Tbilissi. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui ressemblent à des fêtards qui sortent de Bastiani ou d'un autre club et qui sont en train de chanter des chansons polyphoniques, enfin, des polyphonies géorgiennes. Enfin, c'est tout à fait en raccord avec ce que vous disiez par rapport à l'Ukraine. C'est-à-dire, il y a cet attachement aussi au patrimoine et on sent que ça revient beaucoup. Je serais pas surpris qu'il y ait le mouvement inverse, c'est-à-dire comme en Ukraine, qui est aussi un peu plus d'incorporation de chants traditionnels dans des musiques électroniques ou dans du rock progressif ou dans différentes sphères contemporaines. Je serais pas surpris de ça.
Parce que vous, quand vous y êtes allé en Géorgie, en tout cas avant d'écrire votre livre, l'Ukraine n'avait pas encore été envahie à grande échelle par la Russie, et vous racontez un vieux monsieur connu dans le milieu, Coca, le premier à avoir organisé des concerts de punk venus de tout le Caucase pendant la période communiste. artiste et qui va de concert en concert pour dire au néo-Nirvana, en quelque sorte, qu'est-ce qu'elle a de géorgien, ta musique, en fait. Et on l'entend dans tous les concerts, il vient s'inviter dans les concerts et un peu tenser comme ça ces jeunes musiciens. Alors peut-être qu'en effet, il y a plus de géorgiens aujourd'hui dans la musique en Géorgie. Ce que vous nous racontez, Arnaud Contreras, est-ce que ça reste un phénomène très urbain qui existe surtout dans la capitale de Tbilissi?
Alors non, c'est vrai aussi dans d'autres villes, c'est vrai à Batoumi, c'est vrai à Koutaïssi, où il y a des petits clubs, mais c'est, si vous voulez, ce rôle social du club est vraiment sorti dans la rue. Moi j'ai été marqué, j'étais il y a 6-7 semaines à Tbilissi, et j'étais assez marqué de voir que les clubs, les banderoles des clubs étaient en première ligne dans les manifestations, de voir qu'il y avait des personnes qui ne s'intéressent absolument pas aux musiques électroniques, hein, mais qui rejoignent en fait ces lieux de sociabilité qui sont les clubs. Il y a des personnes qui s'intéressent absolument pas à la techno, qui sont jamais allées à Berlin, qui passent plutôt leur temps à développer la gastronomie géorgienne autour de tablés, qui finissent à 4 heures du matin et qui pensent pas aller en club, qui se réunissent derrière la banderole des clubs. Les clubs sont un peu, je sais pas si vous connaissez les Gasteche au Pays Basque, par exemple, c'est le lieu de sociabilité au Pays Basque, où vous avez toutes les générations qui se rejoignent, où vous avez sur scène un groupe de punk qui est en train de jouer, parfois inaudible pour certains, mais il y a un message politique, mais il y a un message social qui s'exprime. C'est la même chose en Irlande, où on n'est pas forcément... les jeunes ne sont pas forcément très attirés par la musique traditionnelle irlandaise, mais continuent d'aller danser fêtes en Irlande, parce qu'il y a une revendication politique pour l'unification de l'Irlande. Il y a un peu ça qui se passe, les clubs, en fait la musique électronique et les clubs et les gérants de clubs électroniques sont devenus en quelque sorte porte-étendard de cette lutte contre le gouvernement de Georgian Dream, pour réclamer de nouvelles élections, pour la libération de tous les prisonniers, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont été mises en prison depuis 3 mois en Géorgie, et pour tout simplement avoir le droit de vivre tels qu'ils le veulent. Ça a largement dépassé les luttes LGBTQ, dont on a, qui sont beaucoup associées évidemment à la culture des clubs électroniques. Il y a vraiment une conscience de lutte sociale, de lutte pour l'expression, de lutte très très simple pour le droit de vivre tel que les Géorgiens veulent vivre. Oui.
La communauté LGBT, par ailleurs privée de représentation en Géorgie, dans les rues, les manuels scolaires ou les émissions de télé suite à une loi votée en octobre par Rêve Géorgien. Mais est-ce que pour autant, ces clubs techno dont vous nous parlez, Arnaud Contreras, sont proches de l'opposition politique au parti au pouvoir? Ou simplement, c'est de la politique, c'est de l'infrapolitique, cette opposition qu'ils manifestent?
Il n'y a pas de leader affirmé. On a beaucoup vu l'ancien président de Salomé Zourabichvili dans les médias français et dans certains médias en Europe de l'Ouest. Mais elle représente pas vraiment cette opposition. C'est quelqu'un, voilà, elle est là. Elle occupe la place publique. Je dirais que c'est un mouvement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un mouvement sans chef, mais en revanche, qui s'agrège autour des étudiants, des clubs électroniques, de certaines revendications sociales. Il n'y a pas de syndicats, ou il y a très peu de syndicats, par exemple, en Géorgie. C'est quelque chose qui est en train de renaître. Et juste pour vous dire à quel point c'est signifiant du point de vue des clubs électroniques, c'est qu'à l'initiative d'un certain nombre de clubs électroniques, a été créé le syndicat de la musique en Géorgie, et qui a fait des petits tout autour. Donc il y a eu d'autres syndicats qui se sont créés. La sphère syndicale avait été complètement annihilée il y a une vingtaine, trentaine d'années. Aujourd'hui, elle est en train de renaître aussi. Donc je sais pas si on peut dire qu'ils sont l'opposition. Voilà, je dirais pas qu'ils rejoignent l'opposition, je dirais qu'ils sont l'opposition à ce gouvernement de Georgian Dream, à ses influences extérieures, à ses lois sur les agents étrangers. C'est vraiment la situation aujourd'hui. Ils sont l'opposition.
Merci beaucoup, Arnaud Contreras, d'avoir été avec nous pour nous en parler. Tbilissi Tcha-Tcha, votre livre apparu aux éditions de Juillet. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Et ce matin, c'est avec vous, Mélanie Kuzelevitch, aux États-Unis. Mélanie, le démantèlement de l'USAID démarre.
Hier après-midi, les employés de l'Agence américaine pour le développement international reçoivent un courriel. Les responsables nommés par l'administration Trump les informent qu'ils vont licencier 2000 salariés basés aux États-Unis. Tous les autres travaillant à l'étranger seront placés en congé administratif à partir de ce dimanche à 23h59, rapporte le New York Times qui a pu consulter le mail. Tous, à l'exception de la direction centrale et les employés qui travaillent sur des missions essentielles et des programmes désignés. Un communiqué envoyé 2 jours après l'autorisation donnée par un juge fédéral de licencier plus de 2000 salariés dans l'agence, rappelle The Guardian, une purge suite logique d'une série de licenciements débutés par l'administration Trump dans le cadre d'un vaste plan qui vise à stopper presque toute l'aide américaine à l'étranger par un gel généralisé sous la houlette d'Elon Musk et de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. L'agence USAID gère un budget de près de 43 milliards de dollars qui, à lui seul, représente 42% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde, note La Libre, un gel qui a provoqué une onde de choc alors que de nombreuses ONG dépendent du financement américain, commente le quotidien belge. Réaction immédiate de plusieurs personnalités politiques démocrates pour protester contre ces licenciements et des rassemblements spontanés comme cette manifestation à Washington DC suivie par la BBC.
Musk was not elected and he's taking over powers that really belong to Congress.
Elon, arrête ton coup d'État, personne ne t'a élu, scandent les manifestants. Musk s'arroge des pouvoirs qui appartiennent en réalité au Congrès, dénonce une militante. Marco Rubio assure au New York Times que certaines aides étrangères seront maintenues après un réexamen complet de 90 jours, mais sans donner plus de précisions sur le processus. Concernant le personnel déployé à l'étranger, précise La Libre, l'agence financera les coûts du rapatriement.
En Inde, Mélanie, les autorités interdisent la fabrication de 2 opioïdes après les révélations d'un média britannique.
Il y a 3 jours, la BBC publie une enquête sur la société pharmaceutique indienne AVO. Selon le média britannique, elle fabrique des opioïdes non autorisés et hautement addictifs avant de les exporter vers le Ghana, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Des médicaments qui provoquent une crise majeure de santé publique en Afrique de l'Ouest. Dans cette vidéo tournée en caméra cachée par les journalistes de la BBC Eye, le gérant de la société indienne dit très clairement que ces médicaments sont très nocifs pour la santé, mais que les clients ne peuvent pas comprendre qu'ils veulent juste se relaxer. Ces produits sont consommés en particulier par les jeunes et font des ravages dans toute la région. Un cocktail mortel, décrit The Times of India, à tel point que dans le nord du Ghana, l'un des chefs de la ville de Tamale a missionné 100 citoyens volontaires pour faire des descentes chez les trafiquants de drogue et retirer ses pilules de la rue. C'est en voyant de nombreuses voitures floquées avec le logo AVO que les journalistes de la BBC sont remontés jusqu'à l'usine indienne. Suite à ces révélations, l'usine de Bombay a été perquisitionnée et l'intégralité de son stock a été saisie, rapporte The Times of India. De son côté, la société AVO dément, souligne Business Standard. Elle affirme aussi que plusieurs sociétés utilisent illégalement la marque et le logo AVO pour fabriquer des produits similaires. Un marché juteux et extrêmement dangereux. Rien qu'au Nigeria, près de 4 millions d'habitants consomment des opioïdes, selon le Bureau national des statistiques, pointe Modern Ghana.
Merci beaucoup et je rappelle aux auditeurs que si vous souhaitez approfondir l'un des sujets de la revue de presse internationale, vous pouvez écrire sur FCRDPI comme France Culture, revue de presse internationale, FCRDPI à radiofrance.com. Mélanie Kuzelevitch répondra à vos questions et remarques dans la revue de presse internationale de samedi. Demain dans Culture Monde, la suite de notre série Musique et Patriotisme, nous parlerons de la K-pop comme arme de séduction massive pour la Corée du Sud.